Bonsoir et bienvenue dans Graffiti Cinéma. Cette semaine, c'est la dernière émission du thème de février consacré aux jouets au cinéma. Après avoir exploré les jouets de cinéma et les films adaptés en jouets avec notre dernière émission, on est même parti dans un magnifique jouet de cinéma qu'est la cabine de projectionniste digne d'un cinéma paradiso. Et bien, cette semaine, on continue sur cette logique-là puisqu'on va découvrir les jouets techniques du cinéma. Est-ce que les caméras, les projecteurs sont des jouets comme les autres? On en parle avec Valentin Boubeau qui est dirigeant de VB Presta, une entreprise qui nous a accueillis. On va découvrir son parcours et évidemment sa perception de notre thème de la semaine. Et je l'interroge en compagnie de Geoffrey qui fait partie de la troupe mais qui est également évidemment monteur vidéo qui nous intéresse puisqu'il aura également son regard sur d'autres métiers de cinéma.
C'est magnifique.
On se retrouve tout de suite dans les locaux de VB Presta pour une heure de discussion autour de ces grands jouets du cinéma.
Hé, hey, c'est quoi le texte?
Comment on dit déjà?
J'ai oublié.
Où est-ce que vous voulez en venir?
Laisse tomber.
Graffiti cinéma.
Tcha! Graffiti cinéma.
Et tout de suite, on commence avec la chronique de Juliette qui vous parle d'un monde de jeux pour rester dans notre thème et rappeler également notre dernière émission. Juste après, on se retrouve chez VB Presta avec Valentin et Geoffrey pour les jouets techniques du cinéma.
Il faut que je vous parle, Dixit Blanche Gardin. L'autre jour, je me suis fait un petit week-end avec ma sœur et mon beauf. 1000 bornes aller-retour à faire en train, autant vous dire que nous sommes devenus les aventuriers du rail. Entre deux parties de Yahtzee pendant le trajet, ma sœur me questionnait sur mes relations amoureuses, mais comment vous expliquer? Le petit camembert du Trivial Poursuite ne se remplit pas, je passe d'échec en échec. Bref, le voyage fut très long. Nous sommes donc arrivés à Aigues-Mortes, où la beauté des citadelles n'a pu que nous rappeler les richesses du monde. Dans le dédale des allées, véritable labyrinthe fortifié, nous avons fini par trouver notre hôtel, le Boomerang, où nous avons déposé sans tarder nos bagages afin de pouvoir aller dîner. J'avais mis le paquet. De cartes, évidemment. On ne sait jamais. Robe fuchsia décolletée et fard à paupières intrigant. Véritable mademoiselle rose de ce cluedo sans victime encore. Nous avions choisi un restaurant chinois, modestement appelé les Mystères de Pékin, où le serveur nous dit immédiatement « À la vapeur, c'est un peu plus long ». Je dis ricantonné, mon beauf répondit nouille. Clairement, nous aurions perdu à Codemain. Bien que j'aie toujours le goût du risque, j'entrepris donc avec mes baguettes rayées telles des mikados, d'ôter un par un ces satanés champignons que je n'apprécie guère. De l'extérieur, je devais m'apparenter à un docteur Maboul en quête du papillon dans le ventre. En relevant la tête, je le vis. Waouh ! Et je ne pouvais plus m'empêcher de lui lancer des regards telle la petite fille dans une partie de loup-garou. « Qui est-ce ?» me demanda ma sœur. Mais mon esprit était déjà parti ailleurs. Je nous voyais, sans tabou, nous poser sur un lit comme on étale ses lettres au Scrabble, improvisant une partie de Twister endiablé. Enfin bref, on n'est pas en plein Pictionary, je ne vais pas vous faire un dessin. C'est alors que jaillit dans ma tête une vieille blague avec Honolulu et Carcassonne. Et prise d'un éclat de rire, je sortis finalement de ma torpeur. Mon bel inconnu avait disparu tel Mr. X dans Scotland Yard. Autant vous le dire, je n'ai pas vraiment de chute à cette histoire et il faut vraiment que je reprenne le cours de mon destin. Alors, on joue ?
Non, je t'explique, Patrice. C'est le jeu de loi et un jeu de loi à gratter. Tu joues avec des dés. Il y a du suspense.
Et qui c'est Dédé?
Pas Dédé, Dédé, Dédé. Comme au jeu de loi, tu grattes Dédé.
Et pourquoi j'irais gratter Dédé, pourquoi?
Mais pour le suspense!
100 000 francs gagnés, tête de cochon!
Bon, fallait le dire tout de suite, il est où ce Dédé? Dédé!
Alors, donc, dans Graffiti Cinéma, tout le mois de février, on a parlé de la thématique des jouets du cinéma, et très rapidement, on a débattu qu'est-ce qu'on mettrait dans cette thématique-là, parce que c'est vrai que tout le mois de mai a parlé de jouets. On a eu deux émissions, on a parlé des jouets célèbres mis en scène, le film Le Jouet de Francis Weber en 76, qui était incontournable. La semaine dernière, on a carrément parlé des films qui étaient adaptés en jouets ou en jeux de plateau. Et il y avait quand même une thématique qu'on voulait faire, qui était importante pour nous, c'était de parler des jouets techniques avec des pros, avec des personnes qui vivent du cinéma et qui justement connaissent tous ces trucs techniques. Et on est parti donc du coup revoir évidemment quelqu'un qu'on avait déjà croisé dans l'émission, qu'on était très content d'avoir vu, pour justement La Malédiction des Dunois. Et donc on est avec Valentin Houbeau, bonsoir.
Salut à tous.
Alors on est dans tes locaux VB Presta. Alors évidemment, on va présenter l'entreprise. On est sur Orléans. C'est une boîte de prod dynamique, justement parce qu'elle a participé à la prise de vue et à toute la technique de ce film-là.
Voilà, paraît-il.
Il y a des rumeurs comme ça. D'ailleurs, on avait pu le voir en avant-première avec grand plaisir. Et puis là, on peut le dire, à un moment on enregistre, donc on est mi-février. Vous allez entendre cette émission, vous entendez cette émission, donc on est la dernière semaine de février. Le film va sortir en DVD. Et il y a encore quelques salles qui sont susceptibles de l'accueillir.
Ouais, on est encore en DVD. Enfin, le DVD, ça fait un peu has-been quand on dit ça, mais c'est vrai qu'il va sortir en DVD d'ici début mars, je pense. Ça fera 4 mois que le film est sorti déjà en salle, et donc on aura atteint la date fatidique pour pouvoir enfin publier en DVD.
Mais c'est ce film-là d'ailleurs qui nous amène ici, parce qu'on était très content en tout cas d'en parler, et puis surtout d'évoquer la technique, parce qu'on l'avait découvert dans tes locaux.
Salut les jeunes.
Salut le patron.
Bon alors, comment ça s'est passé à Regency ?
Eh ben pas si mal, alors on a trouvé un agenda avec un rendez-vous le soir du crime avec écrit Dunois.
Et donc du coup là, Saint-Privé, directement, les très beaux locaux que vous avez, on se croirait même dans un épisode de Friends.
Ouais, c'est un peu à la new-yorkaise avec des briques au mur et puis le parquet au sol. Ouais, c'est très sympa. On a essayé de faire quelque chose de très très chaleureux pour s'y sentir bien.
On n'a pas envie de partir en tout cas. Puis en tout cas, on va accompagner pour t'interroger puis aussi pour réagir, parce que lui-même il est monteur professionnel, Geoffrey de la troupe. Salut Geoffrey.
Bonjour tout le monde.
Voilà, il est avec nous. Il dit c'est très bien dire bonjour tout le monde.
Voilà,
et ça c'est beau.
C'est incroyable. Bonsoir.
Incroyable.
Et l'objectif dans cette émission en deux parties avec vous, en tout cas, c'est découvrir la notion de jouet, mais par la technique. Et c'est vrai qu'on le disait en préparant l'émission, le cinéma et toutes les innovations techniques qu'il propose, et c'est hyper connecté à l'enfance, en tout cas c'est ce qu'on trouvait, et on est très content de le parcourir avec vous, parce que justement ce qui nous avait amené pour reparler de la mission des Dunois et puis évidemment de l'ensemble des prestations que vous réalisez avec les Presta, c'est que pour le coup on est toujours dans le trucage, la volonté de découvrir quelque chose ou de progresser et d'être dans une notion de défi. Et moi j'avais ressenti ça quand on avait justement vu la malédiction des Dunois, c'est que vous aviez testé énormément de choses sur le tournage, et ça c'est quelque chose qu'on va évoquer, mais évidemment on va commencer par présenter l'entreprise. Alors, VB Presta, quand, pourquoi, comment, pourquoi ?
Pourquoi une telle chose ?
Bon, là,
voilà.
Vous avez 4 heures.
Allez, c'est parti, bonne chance. Écoute, ça a été créé en 2010, décembre 2010, donc fin 2010, ouais, c'est ça. Ça fait donc maintenant 12 ans quand même que la société existe. Alors, il y a eu sous toutes les formes différentes. J'ai commencé en tant qu'auto-entrepreneur. J'étais encore dans mes études, pour tout te dire. Et puis, déjà très tôt, je savais que je voulais être dans la technique. Je savais pas encore précisément si c'était l'image, la lumière ou le son. Mais
c'est assez vaste, en effet.
Voilà, c'est ça. Mais bon, dès mon stage de 3e, j'ai de l'effet à France 3. Donc, je savais que ça serait l'image. Donc, voilà, je me suis retrouvé un peu assez vite dans le métier, on va dire, parce que j'avais 20 ans. Et j'ai un peu monté tout ça par hasard. Parce que j'avais prévu à la base de continuer mes études, de faire des études supérieures, BTS, audiovisuel, enfin le grand classique, le grand chelem. Mais finalement, ça s'est pas passé comme ça, au grand désespoir de ma mère. Et résultat, j'ai monté ma boîte et j'ai testé pendant un an. Et il se trouve que ça a plutôt bien fonctionné. J'ai pu avoir quelques troupes, on va dire, culturelles, que ce soit au niveau musical que théâtral, qui font que j'ai commencé à travailler avec des petites troupes, mais voilà, c'était assez sympa, avec des caméras alors de l'époque, parce qu'au départ, je me suis acheté une caméra d'occasion qui m'a coûté, pour tout vous dire, 1100 €. C'était une caméra à cassette HD.
Ouais, c'était de la HDV, ou de la mini DV.
63 minutes, pas une minute de plus sur la cassette.
Qui ont été beaucoup démocratisés par des tournages comme
Blair Witch. Ça tournait énormément.
Ouais, t'avais vraiment que ça. Enfin, c'était le
standard. Ouais, c'était le standard, exactement.
Voilà, donc cassette mini DV. Et je me suis acheté ça avec un petit H4, un petit enregistreur, donc c'est pour ceux à qui ça parle. Et puis voilà, ça a démarré comme ça. Alors c'était franchement pénible pour la partie montage, de devoir attendre au dérush.
C'était autre chose le métier, c'est clair, on attendait 60 minutes, enfin c'était fou le dérush.
Voilà.
Alors le dérushage, je fais un peu mon pédagogue, évidemment c'est important, parce que c'est quand on va justement chercher les images, et que quand on a une bande de 63 minutes, on fouille intégralement dans cette bande.
En fait, tu mets play, tu mets rec. Et voilà, ça numérise, donc tu peux pas aller en accéléré, c'est pas comme un fichier que tu décharges maintenant, donc t'attends et tu regardes.
Il y a un film très récent qui raconte très bien ça sur le monde des rochages quand on a du matos qui aujourd'hui en 2022 passerait pour du matériel d'amateur, c'est Nightcall, où justement il ramène ses premières prises de vue, où il est parti faire les scènes de crime dans Los Angeles. Un film très intéressant sur le regard de l'image. Et bon, il a fait une prise, malheureusement moralement très douteuse évidemment, parce que c'est tout l'intérêt du film, mais on le voit défiler tous les vents qui s'est pris avant sur les 40-50 minutes de dérochage, et ça raconte très bien cette expérience en tout cas.
C'est vrai.
Donc voilà, écoute, ça a commencé comme ça, puis après j'ai racheté une deuxième caméra parce qu'il fallait que ça c'est, enfin pour les spectacles c'était plus.
Bah pour les captations c'est clair. Hein,
si là au moins avoir un plan large, un plan serré.
Bah voilà, si tu veux faire du montage, le mieux c'est d'avoir deux plans différents, c'est clair. Hein. Pour grandir, il faut obligatoirement passer par une, deux, trois caméras déjà. Voilà. C'est une base en effet. Donc
surtout que voilà, c'était un peu le côté culturel, donc même événementiel on va dire, donc bon bah j'étais obligé d'acheter voilà pour compléter. Et puis bah comment quoi te dire, bah les prestations se sont enchaînées. Les années ont passé, arrivé en 2015, il a fallu changer de statut, j'ai quitté mon statut d'auto-entrepreneur et je suis passé en société, parce que bon, bah, au moins j'ai pu me permettre d'embaucher des intermittents du spectacle, déjà d'une part, j'ai pu récupérer la TVA pour acheter du matériel, et donc des jouets.
Les fameux jouets techniques. Alors, c'est pas péjoratif, hein, vraiment, on l'a dit en intro, c'est vraiment dans l'esprit qu'on va le voir de toute façon avec la suite de la présentation, c'est qu'on est toujours dans la recherche, c'est vraiment c'est pour ça que ces métiers-là sont absolument passionnants.
Ça évolue tout le temps.
Ouais. C'est ça. Puis bah du coup depuis cette date 2015, écoute, les choses vont grandissantes, hein, si on peut dire. Aujourd'hui, ça représente, je sais pas, on va dire à peu près 150 projets dans l'année. Alors t'as des projets qui vont prendre plus ou moins de temps, certes, mais c'est assez varié. Alors nous ici, on fait vraiment tous les domaines. Hein, on n'a pas que, il y a pas que les Dunois, donc le cinéma, mais il y a aussi tout ce qui est donc lié à l'événementiel, de spectacles, concerts. Va y avoir du film d'entreprise. On va faire parfois que du montage, donc ça va du diaporama photo pour le particulier jusque les montages un peu plus poussés qui demandent plusieurs dizaines d'heures de boulot. Mmh.
Vous faites les fonds d'écran ou pas?
On fait
vous faites les wallpapers? Non.
Question pourrie. Une chaîne YouTube avec des feux. Ça.
Voilà.
C'est les fameux films de mariage. Quand tu commences dans le métier, t'es obligé d'en bouffer. Et c'est. Au bout d'un moment, tu dis non, je veux plus jamais en faire, quoi, parce que t'en as des très sympas, mais t'en as d'autres. C'est le truc. Tu crois que c'est une légende. Non, je veux que des chansons Disney et tout. Non, c'est pas une légende. Moi, on m'a déjà fait ça.
Alors, vous pouvez continuer à vous marier, c'est sympa. Hein,
oui,
mais par contre, j'ai pensé à un autre film, justement, ce que dit Geoffrey. Il me semble que c'est dans REC 3, où ils font des films de mariage, justement.
J'ai pas vu le 3,
Le 3, c'est assez rigolo parce qu'il y a quelque chose de très métal, justement, sur le sens de l'image. Bon, notamment, il y a des zombies qui arrivent, etc. La soirée est gâchée, comme d'habitude.
Ouais, c'est le mariage un peu gâché.
Il y a justement quelqu'un qui fait de la captation vidéo pendant ce mariage, et c'est assez hilarant.
Ça doit être drôle, ça,
Et ça rappelle justement ce que disait Geoffrey. Évidemment, ça en fait partie, et on n'est pas non plus péjoratif.
Oh, bah non, pas du tout.
Justement, on en parlait, nous, quand on faisait le Festival des Invisibles, il y a beaucoup maintenant, aujourd'hui, de cinéastes qui se lancent dans la fiction et qui, justement, font ces films-là, et souvent avec une patte cinéma. Donc, c'est assez rigolo.
Bah après, je pense que ceux qui font du mariage, c'est leur spécialité, ils font que du mariage. Moi, tu vois, c'est marrant que tu me dises ça, parce que c'est pareil, aujourd'hui, je veux plus entendre parler de mariage.
Eh oui, on est d'accord, hein, moins rigolo que d'autres. Il y en a qui étaient, pareil, pas bien payés, tout ça, mais qui étaient des captations de concerts. C'était beaucoup plus sympa. Bah, ça dépend encore sur quel style de groupe, si tu aimes ou pas, mais ouais.
C'est goût.
Exactement,
prennent du plaisir là-dedans, bah, tant mieux.
Bah voilà, exactement.
Moi, c'est plus tout ce qui est lié au live, c'est tout ce qui va être lié au matériel, parce que ici, bon, on l'a bien compris, il y a un petit peu de matériel. Et voilà, de concevoir les événements, de savoir quel matériel je vais mettre en place, et voilà, on y vient un petit peu à ce côté joué.
Oui, tout à fait. Ouais. Mais c'était important vraiment de présenter, parce qu'on voit qu'on est dans un contexte où il y a évidemment cette logique-là qui est importante et qui nous amène justement du noir dans cette logique de production, c'est que souvent, ça peut venir avec des structures qui correspondent plus aussi aux structures d'antan. Maintenant, l'exemple avec les Dunois, on y arrive, qui a été produit intégralement et financé en région, avec des équipes orléanaises. Et ça nous amène justement à ce film-là, parce que c'est aussi des boîtes de prod qui maintenant peuvent faire, avec la miniaturisation, le progrès technique, à ce que faisaient auparavant des studios installés qui avaient beaucoup plus de pognon. Et c'est là tout l'intérêt d'en parler, c'est comment du coup, première question, tu arrives sur le problème des Dunois, justement.
Ça va les gars?
Ouais, bah tiens, puisque t'es si content ce matin.
File donc un coup de main, Apollo.
Je crois que ça s'est passé en août 2020, après un peu pendant le Covid finalement,
ouais.
Où déjà il m'avait envoyé quelques mois plus tôt un scénar que j'avais lu, effectivement, que j'avais trouvé intéressant, sympa, il y avait de l'idée. Après, bah, écoute, la chose s'est concrétisée parce que voilà, on était tous un peu à l'arrêt, on en a profité.
Oui.
C'est surtout pour ça d'ailleurs qu'on s'est lancé dans le projet, c'est qu'on avait un peu moins le choix à ce moment-là.
Très bien.
Bien que finalement, nous, l'activité a vite repris parce que le Covid finalement a amené pas mal d'autres choses à côté. Hein.
Oui, c'est vrai que là on est en pré-production de ce film-là, ouais. On est pendant les confinements à peu près.
C'est ça, exactement. Okay. Et voilà, donc je me suis retrouvé un peu sur l'affaire. Super projet. En vrai, dès le départ, il y avait une excitation de se dire ouais, chouette, on va pouvoir aller faire un petit projet sympa. On va choisir le matériel qu'on va mettre en place. On va avoir quand même des choix. On va pouvoir proposer des choses, ne serait-ce que même la mise en scène. On peut tout faire. C'est vrai que c'est l'avantage dans ce genre de projet, c'est qu'on a une petite équipe et dans les petites équipes, tout le monde peut avoir son mot à dire sur telle ou telle chose, sur la lumière, comment on voit les choses. Donc ce travail de pré-prod, il a été intéressant, ne serait-ce que de retravailler le scénario. Avec Alex Ramos et avec Quentin Dolipin, qui ont eux fait une réécriture de leur côté.
C'était le premier long métrage, évidemment, mais vous aviez déjà fait de la fiction?
Moi, j'avais fait un précédent film,
okay.
Celui-là était petit, l'autre d'avant était un peu plus, on va dire.
D'accord.
Après, c'était pas moi, mon domaine de prédilection, c'est pas du tout la fiction, le cinéma à la base. Donc, c'était hyper intéressant cette partie de pré-prod, de travailler tous ensemble, de savoir un peu où on allait, de bien préparer le tournage, parce que finalement on se rend compte que c'est hyper important de bien préparer le tournage pour éviter de perdre un minimum de temps le jour même. Et finalement ça nous a amené à notre premier jour de tournage. Certes il y a eu un teaser avant, mais si on vient vraiment au premier jour de tournage, c'était le 1er mai 2021. Jour férié, il est double.
Il y a un peu de rancœur, je sens. Alors, ceci dit, dans cette période de pré-production, ça a duré combien de temps du coup
Finalement, tu vois, donc août 2020, on a commencé à parler du projet et on a tourné réellement donc en mai 2021, donc il y a quand même une bonne grosse période. Après, lui, le teaser a eu lieu, il y a eu un teaser, en fait, c'était les deux premières scènes qu'on peut voir dans le film aujourd'hui, c'est là où on les voit marcher. Dans les rues de Beaugency. Ça a été tourné en octobre 2020. Donc tu vois, finalement, peu de temps après avoir discuté, on a déjà fait
ce. Il y avait déjà.
Déjà de réunir de
avoir un peu d'image pour accrocher, enfin un peu de teasing en effet de ce que. Ouais.
Parce qu'il fallait finalement aller au charbon pour trouver un peu de financement.
Ça me rappelle un peu dans les années 80-90, les cinéastes à Norbert Moutier qui faisaient leurs mini affichettes, leurs filmettes. Ils n'avaient pas d'image tournée, mais ils démarchaient au marché du Festival de Cannes.
Et au marché du film.
Financé sur des fausses affiches parce que c'est un peu l'arrache.
C'est génial.
Il y a une série de bouquins que d'ailleurs qu'on peut citer Damien Grangier, qui s'appelle B-Movies.
J'ai vu ça, c'est excellent.
On a essayé de la lécher le plus possible. D'ailleurs, on a sorti un peu de matériel pour le coup, justement. Voilà, je leur dis encore une fois, ça reste aussi. Ça, quelque part, il y a un petit côté joué parce que là, on a pu se faire plaisir. On a sorti, forcément, il y a la caméra d'une part, mais il y a surtout, il y a tout ce qui va à côté. Là, notamment, on avait un gyrostabilisateur qu'on appelle un Ronin.
C'est top ça.
Ronin M à ce moment-là. Il y avait une grue, une petite grue de 6 mètres 50 qui à la base avait presque été achetée spécialement pour l'événement.
Ouais, on la sort pas tous les jours, j'imagine, la grue. Ouais.
Et ça correspond à des plans qu'on connaît tous parce que c'est vrai que c'est souvent le. Alors je ne vais pas faire une généralité, mais ça arrivait souvent que dans l'ancien anglo-saxon, les plans grues étaient beaucoup plus présents chez eux. Ouais. Mais le plan grue, donc ça correspond à une élévation directement de la caméra où on va faire des plongées assez régulièrement.
Sur des paysages. Enfin, ça peut être pour. Narrativement, ça peut être sur plein de trucs, c'est ça. Regarde même le plan grue de la fin de Phantom of the Paradise. Il est absolument magnifique, il est en train de ramper, puis voilà, ça peut avoir une réelle. Évidemment, c'est léché et tout, et puis comme ça donne un bon effet, mais comme tous les outils, c'est au service de quelque chose. Là, vous racontiez une histoire, justement, ça. Donc attention.
Alors, c'est intéressant parce qu'on voit tout de suite que, quelle que soit la production, parce qu'évidemment, on parle beaucoup plus de la bénédiction des Dunois ici, parce qu'on l'a vu le film et on le conseille, encore une fois, on le recommande à tous les Orléanais, puisqu'il va sortir en DVD, on l'a annoncé tout à l'heure. Mais c'est vrai que tout de suite, moi, ce qui m'avait marqué quand j'avais vu, j'ai eu la chance de le voir en avance, c'est que vous aviez beaucoup de liberté sur le tournage et surtout vous avez testé des choses qui correspondaient pas au budget. Vous avez fait, je dirais, dans la grammaire que vous avez adoptée et dans les plans, les signatures que vous avez adoptées, c'est un budget qui devrait être 10 fois supérieur par rapport à ce que vous avez sorti.
Bah, en gros, c'est ça, parce que pour vous dire, le budget était environ à 62 000 euros de près.
Putain, c'est que dalle.
Pour faire simple, l'ensemble de l'équipe technique professionnelle, elle était payée en gros moitié moins cher.
Ouais.
Voilà, donc sur les trentaines de jours de tournage, ouais. Et donc ouais, et finalement le coût réel, ça aurait dû effectivement coûter quasiment 10 fois plus, 600 000 à peu près, on a essayé de calculer, et même à 600 000, ça reste un...
Bah, ce qui est rien, voilà. Ce qui est rien par rapport, je crois, du moins il y a quelques années, c'est une moyenne de 4 millions pour le long français, et tu te dis, mais attends, ils ont tourné dans un... Ils tournent dans un café, dans un appart et dans une rue parisienne. Avec des vous les mettez, voilà. Bon, évidemment, tu as des feuilles de service d'acteur et tout ça, mais derrière, tu as une pub. Ouais. Tu as une pub de fou aussi. Donc tu dis, non, mais filez-moi 500 000 balles et je te fais un long. Hein. Voilà, c'est ça aussi, parce que moi, j'ai pas besoin de toute la fioriture, finalement. Et donc, bravo de l'avoir fait, en effet, avec ce tarif-là.
Et là, c'est vrai que cette liberté que vous avez eue, tout de suite, on voit que vous avez cherché des jouets techniques qui vous permettent de grimper en termes d'ambition assez rapidement.
Ah, déjà, l'avantage, c'est que, bon, bah, tout matériel entre guillemets était offert parce que bah voilà, on avait tout en stock ici, on avait tout à disposition, et quand on a tout à disposition, du coup on a presque envie de tout sortir.
C'est ça, ouais.
On se regarde dans la Matrix, la scène où ils ont tous les fringues.
C'est pas, ouais, comme quand t'as de la loc, c'est vrai que c'est autre chose, tout ça, ouais.
Donc là, bah, notamment là, sur la partie lumière par exemple, je vois, c'est une partie où on s'est fait vraiment le plus plaisir, enfin extrêmement plaisir même, parce qu'on est passé par à peu près tous les types de lumière possibles qui puissent exister, en tout cas ce qu'on avait en stock. Donc on avait aussi bien du panneau LED que du pavot tube, donc c'est
un tube, que l'incandescent,
voilà. Panel, que on avait de tout, quoi.
Super.
Alors là, on avait le panneau LED, donc c'est des LED qui changent de couleur, c'est ça?
Bah, panneau LED, ouais, en gros c'est un panneau carré ou rectangulaire,
voilà. Qui choisit directement la couleur,
en fond froid, chaud,
là. Voilà, c'était température de couleur que tu vas choisir.
Et le projecteur qui nous servait le plus, ça s'appelle un Forza, et le Forza, donc
il porte bien son nom.
T'as plusieurs modèles, 60, 300, 120, et ça c'est pareil, c'est que de la LED, hein, mais tu choisis vraiment ta température.
Ouais, c'est d'une efficacité. Puis ça consomme moins, ça chauffe pas, enfin c'est de la folie, quoi, par rapport à ce qu'il y avait.
Tu peux adapter, tu peux mettre des lentilles de Fresnel dessus, tu peux mettre une coupole qui va refléter, comme tu peux mettre une découpe.
Oh, c'est génial, non, mais ce qui est.
Pour mettre des gobos dedans et donc destiner, par exemple, je sais pas, moi, si tu veux faire une fenêtre au sol, faire croire qu'il y a le soleil, tu peux reproduire tout ça, et c'est hyper intéressant.
Puis c'est un gain de temps, ouais, c'est fou.
Ça me fait penser, je suis en train de lire l'autobiographie d'Alice Guy, qui a été rééditée, donc La Méliès au féminin,
elle a pas été reconnue tout de suite, la pauvre. Ouais.
Longtemps, elle a été mise de côté dans les archives, on attribuait à ses figurants parfois, et par rapport aux éclairages, elle a cité justement son bouquin que je vous conseille, parce qu'il a été réédité en toutes les bonnes librairies, vous le retrouvez, qui a eu des accidents sur ses premiers studios parce que les lumières étaient beaucoup trop fortes. Alors là, on parlait même pas de coups de soleil, on parlait de maladies de peau, et c'était excessivement violent, les premiers éclairages au début du 20e siècle.
Déjà que les pellicules, ça risquait de te sauter à la gueule ou de prendre feu, non, mais c'était une époque sympa, le cinéma.
Oui, voilà. Donc, à cette époque, même là, je revoyais des films de Louis de Funès, c'est passé longtemps. D'ailleurs, petit clin d'œil, parce que par rapport au Dunois, il y a une importance par rapport au nom des personnages.
Mais... On spoil ou pas, non?
On peut.
Faut que les gens trouvent.
Devinette.
Enfin, vous trouviez.
Mais du coup, c'est vrai que c'est incroyable de voir même les ombres de projecteurs qui sont énormes, quoi.
On voit comment c'est éclairé à burn. Tu dis non, mais il n'y a rien de naturel, les gars. C'est éclairé de fou. Ouais. Non, ça fait studamore. Enfin, ça fait faux, ouais. Ça fait complètement faux.
Et moi, je me suis fait avoir justement parce qu'il y avait un plan qui m'avait marqué. Je vous en avais parlé, donc à Valentin et Victor. C'est qu'il y avait un plan, donc c'était une scène d'investigation où le personnage du principal joué par Alexis Ramos vient voir cet historien dans son appart à Beaugency, et je fais, oh la vache les gars, vous êtes bien débrouillés pour entre deux feuilles arriver à placer le soleil couchant. Et c'est là où vous m'avez dit que c'était une lumière, justement.
En fait,
moi ça m'avait marqué parce que justement je me dis, mais c'est incroyable, enfin, je veux dire, c'est bon, déjà que je vois ce truc là, c'est évidemment le petit easter egg entre guillemets qui décore. On pourrait dire que pour vous, si par gain de temps, souvent sur des tournages comme on disait avec ces budgets là, on le fait pas parce que c'est une mise en place, j'imagine, très compliquée, que ça vous prend du temps, puis il faut la concevoir également. Mais au-delà de ça, c'est un soin parmi tant d'autres qui montre vraiment que vous êtes allé loin. Et puis, c'est
vous donne envie aussi de vous amuser, quoi.
Ouais, c'est ça. On n'avait pas envie de faire un film pour faire un film et puis voilà, avoir une image un peu franchement. Enfin, c'est vrai que moi, j'avais envie de me marier avec la lumière. C'était vraiment dès le départ, j'ai dit, ouais, je veux me faire un kiff. Je sais pas pourquoi.
Non, bah, c'est cool. Puis c'est bien aussi, ça part d'une super attention. Justement, c'est pas un film pour s'auto-congratuler. C'est un truc que t'aimerais voir, que tu veux tester, justement. Donc, justement, c'est une très bonne intention de départ, je trouve.
Des choses, et là, effectivement, dehors, bah, on a laissé un projecteur toute la journée, ou même, je crois que c'était deux jours, avec des gueuses pour éviter que le pied il tombe ou il y ait un coup de vent. Mais c'est vrai que c'était vraiment un projecteur qui faisait le soleil couchant, et ça rend hyper bien, parce que ça vient de l'extérieur. Ça fait un beau contre, une belle lumière. Et c'est vrai que là-dessus, bon, on a un peu triché, mais en plus, techniquement, c'est totalement impossible que le soleil soit de ce côté.
Ouais, il aurait pu.
mais voilà, ça a bien fait de le mettre là.
Non, mais c'est ça qui est beau, parce que en effet, bah, comme tu sais, c'est que de la triche, quoi. On fait que de la triche, c'est ça qui est très très drôle. Et on est fiers de notre connerie en plus. On dit, si tu savais comment c'est fait, mon pote. Et comme l'un des effets les plus durs sur Jurassic Park, c'était ce foutu verre d'eau. Parce que c'était une grosse. Et le mec, il a trouvé grosse corde de contrebasse. Boum! Pour faire. Et tu dis, et c'est là qu'ils se prennent plus la tête. Mais t'es content parce que là, tu remarques pas, même. C'est l'effet dramatique qui est génial, mais sinon, tu dis, tu vois même pas ça comme un effet. Ah bah si, mon gars. Et c'est que de la triche pour n'importe quoi. Ça qui est génial.
Verre d'eau qui avance l'attaque du T-Rex.
Voilà, exactement. Nominé pour l'Oscar. C'était une grosse corde de contrebasse qui était sous le tableau de bord, en fait. Parce que le mec, l'accessoiriste des effets, tout ça, il se prenait la gueule avec ça. Un soir, il se pose avec sa guitare, il met son whisky dessus, il gratte la guitare, dit oh merde, ça fait exactement l'effet que je veux. Et du coup, voilà, il a trouvé comme ça. Et c'est. Donc, voilà, c'est faux. Non, il n'y a pas, même pas de vrai tir. Mais non, c'est toujours justement savoir s'adapter, avoir un esprit. Ouais. Justement, et c'est ça qui est intéressant. Ouais.
Voilà, tu vois, même pour faire les gyrophares, avec des pavots tubes, c'est des tubes, hein, encore une fois lumineux de couleur. Bon, bah, t'as des fonctions pour faire clignoter bleu. Bon, bah, c'était assez évident.
Quoi. Bah, ouais, nickel. Ouais.
Dans tous les sens, notamment dans certaines scènes de crime. Bon, là, pour le coup, je vais peut-être pas spoiler, mais.
Non.
Mais c'est vrai que ça, on l'a utilisé à fond et ça fonctionne.
Si le rendu est bon, de toute façon, c'est ça qu'on cherche, c'est le rendu. Donc.
Et c'est là où, avec le projet technique en ouverture pour cette première partie, on gagne du temps par rapport au cinéma de papa qu'on citait tout à l'heure, hein, que ce soit les deux Funès ou même remonté jusqu'au début du XXe siècle, c'est que très rapidement, vous voyez le résultat à l'écran. C'est-à-dire qu'avant, il fallait développer, on mettait 3 jours avant de voir si ça avait marché ou pas.
Fallait pas se louper,
on avait très peu de pellicule. On peut même citer l'exemple de Paris, Texas, où vous avez une bobine à la fin pour faire le plan et c'était terminé. Si c'était raté, c'était raté. Là, il y a vraiment l'idée que la numérisation, souvent, qu'on peut regarder d'un côté un peu vieux con, hein, évidemment, ça avance énormément parce que ça fait gagner du temps, puis ça pousse justement à tester beaucoup plus de choses.
Après, on a la chance sur le tournage. Déjà que c'était un petit budget, on avait une script qui était bénévole de Loen. Et elle était derrière le combo, donc le combo c'est l'écran, elle avait vraiment un visu sur tout ce qui se passait. Elle avait...
Et puis l'œil pour ça, quoi, attention, ça.
Elle prenait son iPad à chaque fois.
Voilà. Exactement, avant je me rappelle, c'était encore au Polaroid. Ouais. Les mecs, ils te foutaient des Polaroids de partout, les scripts. Et maintenant c'est génial, tu vas avec ton iPhone, tout ça, enfin ton téléphone, c'est quand même mieux. Ça, même ça, ça a fait évoluer le métier finalement.
Puis t'évites aussi les faux raccords. Donc, tu peux vite revenir en arrière, attends,
c'est ça.
Tenais de quelle main.
Ouais. Sinon, où est-ce que j'ai foutu le Polaroid? C'était chiant. Quoi. C'est oui, on en a besoin. Maintenant, ça, c'est un métier, je trouve, qui tombe à moitié en désuétude. Ou alors, non, tes scripts, on va pas te payer. Non, mais c'est quoi ce délire, quoi? C'est vachement important. Enfin, c'est beaucoup mieux que de découvrir des trucs en post-prod, de dire bah non, mais là, on l'a pas, les gars. Alors, quoi.
Que tout soit écrit, qu'on ait les bonnes températures, enfin, on a les températures de couleur qui sont écrites. On sait qu'on a fait telle prise avec. Telle lumière, tel pourcentage.
Non, c'est un métier, et quand tu l'as, justement.
En continuant en tout cas de parler de ça, parce qu'on voit que tous les métiers profitent justement de mettre en valeur ces innovations techniques, et c'est vraiment le plaisir à mettre en avant la technique au service d'un film. Hein. C'est pas seulement pour s'amuser ou être content de soi dans son
coin. Ouais.
On a l'exemple avec les Dunois d'une vraie œuvre où tout le monde s'est mis au service, et pas seulement à son service, mais au service de quelque chose de collectif. C'est ce qu'on souhaite à la plupart des films et qu'on retrouve à l'écran. Et en continuant en tout cas, en parler en votre compagnie pour la deuxième partie.
Je débarque tout droit d'une autre planète. Solo dans ton périmètre, tu me tournes autour, me dévisages comme une boule à facettes. T'as le flow d'un mea culpa. J'ai dit, mon gars, ne me touche pas. Tu t'avances, non, ne pousse pas à l'évidence, rien ne t'arrête. Je prends la température, mais ta lumière manque d'intensité. Je reconnais bien là ta signature dans le. l'obsession de ta virilité. Tu veux la jouer solo, 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 solo. À quoi bon rêver solo, 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 solo. Dans le délire, t'es solo, 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 solo. Ouais, tu vas finir solo, 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 solo. Dans ton délire. Cherche pas à faire des figures de style dans ce genre de flow. C'est moi qui te rabis, t'as pas misé sur le bon numéro. Un verre de plus et on te réanime. T'as plus le cœur à la fête. C'est pas la belle et la bête. J'suis déjà dans ta tête. Je souffle et toi tu vacilles. J'prends la température. Mais ta lumière manque d'intensité. J'reconnais bien là ta signature. Dans l'obsession de ta virilité. Tu veux la jouer solo, 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 solo. À quoi bon rêver solo, 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 solo. Dans le délire, t'es solo, 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 solo. Ouais, tu vas finir solo, 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 solo. Tu veux la jouer solo, solo, solo. Solo, solo, solo. À quoi bon rêver solo, solo. Dans le délire, t'es solo, solo, solo. Solo, solo, à quoi bon rêver solo, 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 solo. Dans le délire, t'es solo, 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 solo. Ouais, tu vas finir solo, 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 solo.
Ivani a accompagné nos bandes son pendant tout le mois de février et ce dernier morceau est solo, extrait de son dernier EP. Vous pouvez retrouver Ivani sur sa page Facebook et sa chaîne YouTube.
On est dans les locaux de VB Presta, vous écoutez Graffiti Cinéma, c'est notre deuxième partie. On est très content en tout cas de parler de jouets techniques, hein, en compagnie de Valentin et Geoffrey, parce que c'est vrai qu'on en parlait en off, c'est plein d'aventures et bon, je pense qu'on pourrait faire même 4, 5, 6 émissions là-dessus.
Ah, quand on commence à parler de ça, on a plein d'anecdotes, on a plein de systèmes, plein de trucs.
Donc moi, la première grande question que j'avais à vous poser, c'est tout simplement votre meilleur souvenir avec une innovation technique comme ça, que ça peut être un stabilisateur, une lumière que vous avez en tête, qui vous a complètement changé la façon de travailler tout simplement, Valentin.
Ben, si on parle toujours sur le film, il y a une scène particulièrement avec un stabilisateur, le gyroscope, une scène qui dure 3 minutes, qui est entièrement en plan séquence et donc stabilisée.
Ah, elle est incroyable celle-ci, ouais. C'est celle dans le lycée.
Exactement. Ah,
c'est un travelling arrière.
C'est un travelling arrière, donc effectivement, il y en a un qui se fait tracter par sa ceinture.
C'est ça, ouais.
Et en plus, on descend un escalier.
Ah oui, non, il y a quand même.
La totale, alors, le plus compliqué, c'était presque la perche au son, en plus des micro-cracks, parce que pour le coup, on avait prévu des micro-cracks pour assurer le coup, mais on se prenait les portes en permanence du lycée.
Ah ouais.
Donc c'était dans un lycée, avec des figurants, etc. Mais on l'a recommencé 13 fois, cette prise, me semble-t-il, et c'était... interminable. Par contre, clairement, techniquement, là, l'image, c'est vrai que elle paraît extrêmement bien foutue, ouais. Cette scène.
Moi, quand je l'ai vue la première fois, ça m'a scotché. J'ai dit, vous avez vraiment dû souffrir pour le faire, mais au bon sens du terme.
C'est maîtrisé.
Parce que le travelling arrière, pour nos auditeurs, hein, vous marchez à reculons, vous avez des comédiens qui viennent vers vous de front, il faut être hyper coordonné. En plus, là, vous aviez des figurants qui bossaient à l'arrière-plan qu'il fallait lancer, il fallait pas qu'ils passent dans le champ. Donc c'est toute une chorégraphie à mettre en place. Et on imagine à quel point il faut être inventif pour arriver à faire ça. Déjà, en termes d'imagination, pour le concevoir, est-ce que déjà, quand on pense sur le plan, quand on regarde le scénario, quand tu le voyais, est-ce que tu dis ça, je vais le faire comme ça, en travelling arrière, ça vient à quel moment, justement?
Au départ, quand j'ai lu le scénario, ça ne m'est pas venu directement, mais en fait, c'est en faisant le repérage. Un mois plus tôt, j'ai été faire le repérage avec Patrice,
on va galérer.
Le proviseur, il nous a visité le lycée là, dans un sens particulier. Et là, je suis en train de me dire, mais là, c'est trop bien. Là, c'est trop bien. Là, quoi, on descend, mais c'est trop bien. Du coup, je me suis dit, exactement, on va faire ce même parcours à l'envers, mais on va faire ce même parcours. Alors, ça demandait quelques petits ajustements par endroit, parce que notamment par rapport à la lumière, il y a des endroits qui étaient faiblement éclairés, d'autres il y avait la lumière extérieure. En plus, je savais pas quel temps il allait faire ce jour-là. Et là, tout d'un coup, il y avait grand soleil.
Donc là, c'est le lycée François Villon à Beaugency.
C'est ça.
Et c'est vrai qu'il y a une grande verrière à un moment qui, où exactement, il y a beaucoup de lumière. Et il y a d'autres couloirs où la lumière change complètement.
Du coup, ça n'a pas été évident. Ouais. Donc dans les couloirs, on a essayé de planquer des projecteurs pour ajuster un peu la luminosité. Et puis, bah, il a quand même fallu un peu tricher sur des aspects. Mais alors, déjà, sur le tournage, par exemple, tout ce qui est sur la caméra. Bon, moi j'avais un contrôle, là pour le coup moi j'étais juste au contrôle de la caméra, donc j'avais un contrôle sur mon téléphone, je voyais l'image, je m'assurais que la mise au point était nickel par rapport à la distance des comédiens, mais surtout je m'assurais par rapport à la lumière que tout s'ajustait bien, et là pour le coup j'ai dû mettre, alors le diaph était en manuel, mais pour le coup là j'ai fait quelque chose que je fais rarement.
Alors le diaphragme, excuse-moi, ouais, parce que c'est vrai que je suis un peu mon pédagogue, mais
on fait plus attention, c'est vrai.
C'est vrai qu'on ne fait plus attention. Alors donc le diaphragme qui règle l'ouverture donc de la caméra, c'est pour ça, prendre plus ou moins de lumière. C'est comme pour les photographes.
C'est ce qui fait rentrer ta lumière, exactement.
Voilà. Ça se mesure en ISO, hein, c'est ça?
Alors non, là pour le coup ça se mesure, c'est un diaph, hein, pour le coup. Là pour le coup j'étais en diaph par exemple 4 ou 2,8 je ne sais plus précisément. Mais après j'ai les ISO effectivement qui est là pour le coup c'est la lumière, on va rajouter électroniquement de la lumière. Donc
attention danger.
Ajouter un peu de grain ou pas.
Voilà, attention danger si on monte trop là.
C'est ça. Et là pour le coup je l'ai mis en automatique pour ajuster.
Ouais.
Bon, néanmoins, j'avais mis une limite. Hein,
oui, bah voilà, exactement, tu le limites. Ouais.
Forcément, je vais pas monter à 3200.
Ça va se voir, ça va se voir.
Mais du coup, là, pour le coup, ça j'arrive pas à parler, on a bu une bière entre temps. Et... Excusez-nous.
Ça va rester au montage, ça. Voilà, quand on boit une bière, on est dans.
Ça va se savoir.
C'est vrai que. Non, mais c'est un effet entraînant parce qu'on voit le plaisir que tu as à raconter la scène. Et justement, quand on voit des films comme ça, alors évidemment, on parle principalement des Dunois parce que vous avez fait la captation technique. Mais on va parler d'autres références que vous avez écoutées. Ouais. C'est en tant que spectateur, des fois, ça donne envie de faire du cinéma. Ouais. Et quand on a les codes et qu'on a les outils et qu'on a la chance d'avoir des amis qui peuvent aider à ça, tout de suite, on voit comment l'imagination se construit, quoi, avec ses jouets techniques. Et c'est pour ça que je disais en termes de jouets, parce qu'on voit à quel point c'est connecté au plaisir de s'amuser, quoi, tout simplement.
Ah, c'était complètement un plaisir là pour le coup. Cette scène-là, on s'est fait vraiment. Enfin, un grand plaisir. C'est vrai que le soir, on a presque fêté ça ensemble, limite, parce que bon, bah, c'était pas une journée très intense, parce que c'était notre seule scène au programme de ce jour-là. C'était un samedi matin. On avait l'après-midi prévu pour faire de la carte postale. Donc, carte postale, c'est de l'illustration. Donc, c'est vrai que, là, pour le coup, c'était une scène dont on était assez fiers. Et c'est vrai qu'au montage, elle rend extrêmement bien. Là, pour le coup, c'était vraiment.
Il y a vraiment un effet waouh, quoi.
Ouais, voilà, l'effet waouh. Non, mais on est toujours content quand on a bouclé une scène qu'on va savoir compliquée ou qu'on veut belle parce qu'à un endroit dans le film, voilà, c'est important. Donc, même si c'est pas la fête de fin de tournage, on est quand même content de l'avoir faite.
C'est complètement différent d'autres scènes parce qu'il y a des scènes qui vont être hyper léchées en lumière. Et là, pour le coup, il n'y avait pas tant. Il n'y a pas un gros. Enfin, hormis des renforts de lumière pour les ombres. Mais c'est encore différent. Ça a été une autre technique pour cette scène-là.
Ouais.
Et finalement, chaque scène, on a essayé de se dire qu'est-ce qui pourrait être sympa à faire pour telle ou telle scène. Et ça, c'est des choses.
Comment mettre
ça presque la veille pour le lendemain, étonnamment. En fait, on était 3-4 autour dans le canapé, autour du scénario, la veille, limite. Et on se disait, mais qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour telle ou telle scène?
Comment mettre votre patte, comment mieux le filmer.
Champ contre champ.
Oui, bah, bien sûr.
Très souvent.
Oui, c'est vrai que le champ contre champ, bon, c'est le béaba quand on commence le cinéma. D'ailleurs, je pense que les premières fois vous avez croisé une caméra et que vous êtes testé et que vous êtes amusé, on commence par là.
Tu t'amuses en montage,
on
t'amuse comme ça.
C'est la première magie du cinéma avec Méliès qui découvre l'arrêt de caméra par accident.
Voilà, exactement. Ah, j'ai arrêté de tourner.
Caméra, il change de décor, par magie, les gens disparaissent. Bon, ça, c'est vrai que c'est les premiers tâtonnements et c'est très émouvant. Et il y a des très belles scènes en champ contre champ. Hein, c'est vrai que quand c'est fait de manière assez plate et c'est arrivé dans des premières esthétiques télévisuelles, quand les télés. Alors, moins avec la VOD aujourd'hui, mais comme les télés des années 80 devaient provenir à produire des fictions au kilomètre, il y avait évidemment des délais très très courts, et cette esthétique-là, où en Angleterre ils appelaient ça l'esthétique BBC, quand elle s'est généralisée, on a attaché l'associer le champ contre champ à une platitude. Voilà.
Complètement.
C'est pas pour autant que c'est comme en littérature, quand vous avez 50 idées par ligne et les 50 métaphores, c'est compliqué à lire. Quand il y a 50 idées par plan, c'est pas bon non plus.
Voilà, faut pas trop non plus. Voilà,
c'est aussi la question que j'aurais vous poser aussi à tous les deux, c'est que quand un plan est trop chargé d'idées, il y a une limite quand même. Hein.
Donc ouais. J'imagine que quand vous cherchiez des innovations, vous dites attends, il faut quand même pas qu'on prenne le pas sur les comédiens.
Ou sur le film, sur ton propos, sur tout ça. Ouais, exemple, ouais, faut pas, en effet.
C'est vrai que sur le tournage, tu vois, tu vas avoir pas mal d'idées, de plans. Tu te dis, bah, tiens, je vais le faire comme ça, dans ce sens-là, ensuite dans le contre-champ, ensuite en large.
Voilà.
Et après, finalement, t'as plein de choses qui.
Ouais. Plein ça de fait plans, beaucoup, la vache.
Au montage, que tu te rends
compte. Ouais. En fait, j'ai pas. Ça va pas sur un tout, faut l'imaginer sur un tout. Et tu te dis, je suis en train de flinguer mon rythme, ou c'est trop, là, c'est beaucoup trop soutenu, alors que, ouais, c'est pas facile.
On est éventuellement à un plan différent que tu vas placer une fois ou deux, mais finalement, ouais, tu te rends compte que parfois la simplicité elle est pas plus mal.
Bah ouais,
donc
complètement. C'est ce qui sert mieux ton propos aussi, le jeu des acteurs. Non, les acteurs ils jouent bien, t'as un dialogue intéressant. Bah écoute, un chant contre chant, ça va le faire finalement, tranquillement. Ouais. Et puis voilà.
Chant contre chant, finalement, bon, c'est quand même ça reste la base. Et par contre, moi, ce que j'aimais bien faire quand je faisais du chant contre chant, c'est que pour éviter justement cette platitude, comme on disait, c'est que j'aime bien donner quand même un peu de mouvement dans mon image.
Ouais, voilà.
Et que je me balade très légèrement.
Ouais, voilà, t'es au steady où tu fais un petit peu d'amorce. Moi, j'aime bien, pareil, mettre un peu d'amorce, c'est-à-dire quand on voit le personnage parler, on voit aussi de dos, on voit un peu en flou de dos l'autre personnage qui est en face de lui, donc ça donne un peu de vie et on voit, c'est pas juste qu'il s'adresse à la main ou à une balle de tennis que quelqu'un lui tient, parce qu'en face, il y a l'acteur qui est pas là, il a tourné hier.
Ça, c'est arrivé. On peut citer des séries récemment aux États-Unis qui étaient hyper bien découpées avec des mises en place parfaites. Vous prenez Better Call Saul, par exemple, tous ces univers-là, vous avez des plans iconiques à chaque fois.
Sur un gros niveau là.
Moi, ça m'est arrivé de regarder cette série, mais de pause sur certains plans, en me disant mais ce plan est parfaitement découpé, on dirait une BD.
Il y a rien au hasard. Il y a vraiment
c'est là. C'est vrai que la technique de l'amorce. D'ailleurs, vous en avez quelques plans en amorce hein, dans les Dunois. Donc l'amorce, oui, bon, on rajoute une couche dans le plan de découpage.
Ça fait exactement. Et puis il y a aussi la présence ça fait la présence du personnage et un peu de l'acteur, parce que ça me fait marrer. Avant, c'était beaucoup des acteurs des fois qui pouvaient pas se voir, même ils jouaient pas ensemble. Alors qu'ils sont en champ contre champ, ils sont.
C'est important parce qu'on voit à quel point ce sont les outils qui sont au service du film et pas le contraire. Et il y a des cas comme ça, on a tous vu.
Mais il faut pas que ça soit
des techniques assombrir pas au sens colorique, mais alourdir en tout cas le style d'un film très ampoulé.
Ça comble quelque chose, je pense. Ça comble des lacunes de réalisation ou de scénario en général. C'est parce que je sais pas quoi faire.
Et dans l'agenda, j'ai trouvé écrit dans un coin Eusebius. Alors moi, ça me fait penser à Zob, mais je suis pas sûr que ce soit une piste à suivre.
Dis donc, rappelle-moi, t'es humoriste ou gendarme ?
Les deux, mon capitaine.
Là, quand on citait le plan séquence tout à l'heure dans les Dunois, on a une tension dans le plan, parce qu'on sent qu'il y a une enquête, qu'il y a quelqu'un qui n'est pas tout à fait clair, on va pas évidemment spoiler, donc le plan séquence profite de cette tension et vient directement enrichir le scénario.
Voilà,
Donc on est dans cette réflexion.
Et d'ailleurs, il y a un autre plan séquence dans le film qui lui est totalement différent de l'autre. Et d'ailleurs, c'est sur le tournage, c'est complètement venu sur le tournage, on ne savait pas comment mettre en scène finalement tout ce qui allait se passer. Donc en gros, pour faire simple, il y a un boucher qui est plus ou moins sympathique, hein, voilà.
Mais spoiler,
il va sortir de sa boucherie pour aller quelque part. Hein. Il est suivi par son collègue, on voulait que cette scène, il fallait que en fait il y ait l'inspectrice qui voit cette scène de loin. Il fallait que ces personnes croisent un autre personnage qui est la clocharde. Il fallait que, en fait, il fallait qu'il se passe pas mal de choses. Ouais. Et on voulait, c'était un peu lourd. En fait, c'était hyper compliqué. Donc on s'est dit comment on peut faire pour réduire tout ça et montrer que effectivement faire comprendre aux spectateurs les choses. Donc en fait on a fait des accélérés. Donc on a fait tout en plan séquence, mais on a tout accéléré les passages et la musique est venue se greffer par-dessus. La musique Thibaut Villarmé d'ailleurs.
Est-ce qu'il l'a fait après ou avant?
Et il l'a fait. Non, c'était une question, l'a fait après.
Voilà. C'est vrai, sur
c'est dingue.
Ouais.
Parce que pour tout vous dire, quand j'ai fait le premier Ours, donc en janvier 2022. Je lui ai envoyé et c'est vrai que quand j'ai reçu la première version de sa musique, ça collait déjà parfaitement. J'ai quasiment pas retouché en fait le montage après ce premier jet.
J'ai trop demandé ce que c'est un ours, enfin pas l'animal évidemment.
Ouais, pardon.
C'est gros, c'est poilu.
Une grosse bête poilue qui fait.
C'est pas pour rien qu'on appelle ça un ours en même temps.
Ouais, c'est ça.
Non, mais c'est ce qu'on trouve à la fin des journaux, mais je pense que c'est un descriptif.
C'est notre premier montage.
C'est
un peu
une
monté,
grosse sélection, en gros, voilà. De tes prises que tu veux monter bout à bout.
C'est presque un bout à bout.
Ouais, voilà.
Et ben j'avais pas de jargon, donc j'aurais pas été capable de.
Sans musique, sans.
sans rien, c'est juste tout monté un peu brut. Voilà, je reviens un peu sur les champs contre champs. Donc souvent, tu avais un champ contre champ et un large. Ce large, j'essayais de le varier à chaque fois. Donc soit on avait un large fixe, trépied basique, mais c'est un peu un truc qui m'ennuie, tu vois. Soit j'essayais de lui donner un peu de dynamique et il y a eu plusieurs techniques. On a eu d'une part un slider.
Ouais, c'est bien ça. Donc, c'est
slider,
pas mal. Ouais.
C'est voilà, là pour le coup, c'était un petit slider. Donc c'est un petit rail d'un mètre, juste un mètre. Ça permet d'avancer ou de reculer ou d'aller sur la gauche.
Voilà, sur le côté, ça fait des petits va-et-vient tout doux. Remarques pas tant que ça, mais qui te font une fluidité justement, qui sont c'est très bien.
Oui,
ça.
C'est fameux. C'est une technique que je trouve qui est de plus en plus utilisée, qui marche très bien quand il y a une tension dans un plan. On va
complètement.
Exactement.
Très léger. Là, notamment, je le faisais pour les scènes d'interrogatoire.
Voilà.
C'est ça. Ouais, ouais.
On allait vers la table tout doucement.
Et voilà, justement, ça, dans une narration et tout ça, c'est vachement important. Tu le vois peut-être même pas des fois, mais tu vas le ressentir. C'est ça qui est intéressant, une espèce d'effet sur le spectateur qui est vachement intéressant.
D'ailleurs, c'est un mini rail en fait.
Ouais, tout à fait.
Petit rail. On va dire.
Et tu coulisses de droite à gauche tout bêtement sur ta cam qui est sur le plateau sur les rails. Voilà.
Alors c'est ça. C'est
ou d'avant en arrière.
C'est pas évident en plus parce que. T'es hyper stressé donc il faut vraiment pas que tu sois trop.
Du bras. Est-ce qu'il y a une notion d'automatisation pour ça? Parce que j'avais vu sur le tournage.
Ouais, j'avais vu qu'il y en avait.
Sur The Shield où ils avaient leur caméra à distance. Alors c'est plus de 15 ans. Mais ils avaient une télécommande pour programmer la caméra et faire des travelling ou des zooms.
Complètement. Il y a des sliders qui sont automatiques. Tu peux déjà programmer ton mouvement, il va te le refaire, que ce soit dans le cinéma ou même dans l'événementiel pour les spectacles, tu as souvent un petit rag qui se promène avec une petite robotisée.
Et tu peux tout à fait tout.
C'est vrai que tout est aujourd'hui, maintenant, enfin, tout est possible.
Ouais,
entre guillemets.
Ça, les cable cam aussi, pareil, c'est un jouet magnifique, la cable cam. Ça.
Ah bah, on peut en parler hein, si vous voulez. Ouais, ça m'évite de poser une question.
Du coup, là, c'est un câble, le cable cam, c'est un câble d'acier qui est relié d'un point A à un point B. Moi, j'avais une amie qui faisait ça sur le Tour de France.
Roland Garros. Eh ben, j'ai un ami aussi qui faisait ça sur Roland Garros. Voilà.
Ça s'appelle.
J'avais un ami d'école qui était sur. Et là, c'est génial, t'es en haut sur ta selle avec ta télécommande.
Ouais, en vrai, c'est génial. Enfin,
bon, faut être spécialisé, faut savoir faire. C'est pas comme.
Ouais, c'est ça.
Un jouet, d'accord.
Super sympa, apparemment.
Et puis, t'as, enfin, dans la même lignée que la cable cam, t'as la spider cam qui est la plus dédiée au stade. Qui là, donc pour le coup, c'est quatre. Enfin, c'est t'as quatre poteaux et donc t'as deux câbles et ça te permet de déplacer ta caméra sur les axes comme ça.
Il y a aussi pour finir sur ces.
Ouais.
Ça peut apparaître gadget alors qu'en fait c'est vraiment intéressant. Hein. Ouais. Évidemment, c'est très important. Ouais. Mais il y a la fisheye également, donc l'œil de poisson directement qui fait
l'effet Judas à la Bernie. Et
voilà. Qui fait des plans. Et justement, tu parles de Bernie, moi ça me faisait penser à Dupontel, la scène dans Enfermé dehors, où ils balancent un SDF dans des escaliers, ils le mettent dans un ballon à la caméra, carrément, pour qu'elle rebondisse de partout. Donc on voit vraiment ce côté.
C'est génial comme réel.
Bon, j'ai pas le temps d'attendre, hein, moi. On va le faire muer, écoutez. Ça devient... Mais écoutez, le perchman n'est pas là, tu te rends compte? Mais c'est une plaisanterie, ça. Allez, tournons. Qu'est-ce qu'il fout, ce con? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Viens là, nom de Dieu! Oh, mais qu'est-ce que tu allais foutre là-haut? Il est con, celui-là aussi. Oh. Allez, moteur!
Vite, il y a le soleil qui va sortir, mes enfants.
Allez, moteur! Moteur!
Vite au départ, allez!
Allez, moteur.
Dans 30 secondes, on raccorde absolument.
Allez, moteur.
Allons-y.
Moteur. Clap de fin, éventuellement. Moteur.
Vas-y, Jean-Pierre.
Moteur.
Allons-y.
Moteur.
L'ingéniosité, c'est quelque chose qui me parle et justement, je voulais vous poser une question par rapport à ce qui peut être moteur dans l'ingéniosité parce que c'est vrai que quand on parlait d'accélération et d'effet accéléré, moi ça me faisait penser à du Tintin, c'est-à-dire que parfois il y a des ambiances comme ça très tintinesques où ça accélère. Je trouvais de toute façon que pour les Dunois, encore une fois, on peut en revenir dessus, qu'il y avait un côté très assumé de BD, de rebondissement comme ça, au bon sens du terme évidemment, qui montrait vraiment ce côté-là très, très, très enfantin, mais bon, vraiment, encore une fois, avec tout ce qu'on a envie
envie de dire de positif par rapport à ça, de curiosité, d'en avoir envie de s'amuser. Moi, il y a des moteurs, évidemment, il y a des cinéastes comme ça qui ont été très inventifs et qui ont encouragé énormément de cinéastes ou d'amateurs quand ils étaient plus jeunes à découvrir ça. Est-ce qu'il y a des cinéastes pour vous moteurs qui ont créé des choses quand vous le voyez au cinéma, qui vous ont donné envie de créer des choses? Alors, je peux donner l'exemple du travelling. Qui n'a pas fait un travelling en amateur avec un chariot, avec un caddie, en se cassant la gueule?
Avec tout ce que tu pouvais, c'est clair, on essayait de faire des travelling. Hein. Ça, c'était...
Le travelling, c'est peut-être le plan qui a fait le plus de blessés chez les vidéastes amateurs.
Dans des coffres de bagnole ouvertes et tout ça.
Mais ça, tu sais qu'on l'a fait pour le tournage des Dunois, on l'a fait le coffre ouvert, c'est
ça,
logique.
Le coffre ouvert, ça se fait toujours.
Mais c'est hyper bien.
Bien ça. Ça se fait toujours assez bien. Parce
En plan à l'arrache, comme ça, on peut citer très historique le plan de fin d'Easy Rider, où ils ont dû monter dans un ULM qu'ils ont lesté avec une caméra qu'ils avaient embarquée pour justement faire le fameux plan. Alors on vous raconte pas la fin encore une fois. Après que le film a 50 ans, vous pouviez. Le film était en roue libre, et c'est vrai qu'il y a pas mal de substances illicites qu'on traînait dessus, mais ce fameux plan de fin où ils décollent avec un mini hélico, avec une caméra qui pèse plus de 100 kilos, tout le monde leur pensait qu'ils allaient crash avec ça. Ça, c'est typiquement du bricolage dans un film culte. Mais du bricolage, en bon sens du terme, ça va sans dire. Bon. Est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça? On parlait des travelling, des coffres de voiture.
Ouais, c'est ça. Bah, même sur le tournage, là, on a voulu faire un plan qu'on voit à peu près dans tous les films. C'est le fameux plan où tu as deux personnes dans une voiture.
Alors, fantastique celui-là.
Voilà. souvent, bon, c'est fait en studio, voilà, parce que c'est bien plus simple, on est bien d'accord. Mais là, pour le coup, on s'est dit, bon, allez, on va mettre une caméra sur le capot de la bagnole. Ouais. Allez, on est des ouf.
Ah non, mais ça se fait aussi.
C'est bon.
C'est vrai que. Tu tires un peu plus les fesses, quoi.
Je te cache pas que quand on roulait à 80, alors je dis bon, on roule pas trop vite, mais on était quand même sur des portions à 80, 90. On avait quand même sécurisé la chose, mais c'est pas évident parce que ça demande quand même des dispositifs assez gros. Et bien là, pour le coup, on pouvait pas se permettre d'acheter spécifiquement ça parce que voilà, t'imagines, t'achètes un système à 2000 balles juste pour un plan. À rentabiliser, c'est pas cool. Un film à 62 000 euros.
Oui, parce qu'il faut le dire, dans la structure, on parlait des après ça au tout début, c'est que tout ce que vous avez pu acheter pour le tournage, derrière il y a évidemment un plan, on se dit mais dans quel cinéma, dans quel film institutionnel je pourrais m'en resservir, évidemment. Quoi.
Bah, en fait c'est vrai que tout le matériel ici, tout ce qu'on achète, c'est issu forcément de l'argent qu'on a gagné, mais c'est à chaque fois on se dit bon bah alors on va racheter telle ou telle chose parce qu'on va avoir tel besoin, souvent sans
amortissement,
c'est ça, et après de se dire bah, est-ce que ça vaut le coup, c'est vrai qu'il faut réfléchir à tout ça. Bon là pour le coup l'histoire de la caméra sur le capot, c'est pas quelque chose que tu fais tous les 4 matins, surtout sur Orléans.
C'est justement ça qui m'a fait tiquer quand je le voyais au bon sens, positivement. Je me disais, mais les gars, ce genre de plan, en général, on se met dans la bagnole, on place un acteur, on fait champ contre champ ou on se met sur la banquette arrière pour faire le troisième plan, et terminé, quoi. C'est tourné en 2 heures.
Mais nous, on a envie de se marrer.
Mais voilà, et quand on voit le plan à l'extérieur, c'est aussi un signe pour les gens, quels qu'ils soient d'ailleurs. Mais moi, en voyant pas mal de films, je me dis, bon, là, clairement, je vois le boulot que ça représente, et je vois que les gens, ils ont soigné le film et qu'ils ont voulu en faire plus. Donc c'est aussi quelque chose qu'on reconnaît évidemment, quoi.
C'est ça, ouais. Non, bah c'était pas évident en plus parce que forcément quand tu filmes à l'extérieur avec une vitre qui est donc à 45 degrés, t'as des reflets de dingue. Donc on a utilisé un filtre polarisant pour justement essayer d'éviter ce problème de reflets. Mais c'est vrai que c'était... On a fait un peu les fous là pour le coup. Bon allez, ça se tente, et finalement c'est vrai que ça marche globalement. Je pense que ça marche bien. Après, peut-être que la stabilisation ça pourrait être amélioré. On sent que c'est pas nickel, mais c'est parce qu'on n'avait pas les systèmes. Mais on n'était pas rassurés parce qu'en plus c'était bon. D'une part c'était une voiture de loc, hein. Donc il fallait pas qu'on règle le capot en plus dans l'affaire. Hein.
Petit coup de pression là-dessus. Ok, ouais. D'accord.
On a la peinture qui s'est enlevée au niveau de la ventouse.
C'est ça. Donc en plus on avait 3 ventouses. En fait il y avait 3 ventouses sur le capot, et j'avais sécurisé avec deux aimants surpuissants, avec des élingues de sécurité au cas où si jamais ça lâchait. Bon, surtout qu'on avait quand même mis une caméra, alors c'était un GH5 dessus, donc bon, avec l'objectif grosso modo ça faisait un petit bilan à 3500 euros, tu vois, sur le capot. Donc quand même c'est vrai que
il n'y a pas de ralentisseur sur la route.
C'est ça, il fallait faire attention, mais bon, non, franchement le résultat est intéressant. Alors ce qui était aussi très drôle, c'est que dans cette scène là c'est moi, je suis derrière sur le siège, vraiment arrière, mais enfin planqué, allongé, à côté de moi, il y a Quentin qui fait la mise en scène, qui est aussi allongé. Donc on est tous les deux comme ça à se regarder. Lui, il a le clap dans les mains, limite, on ne peut plus bouger. Et il y avait une deuxième voiture qui nous suivait avec le reste de l'équipe, notamment bah, Chloé au maquillage, du coup, Nolwenn au script, Victor, etc. Mmh. Et c'est vrai que... C'était en communication en plus, on avait fait les choses bien, ils avaient un retour son de tout ce qu'on faisait. Donc c'est pour te dire qu'on avait poussé la chose sur l'autoradio.
Ah ouais, c'est
incroyable. On a envoyé du coup avec un émetteur son.
Et B.
Et là, tu vois, ça paraît pas, mais en fait, tout ça, bah, ça demandait des moyens considérables. Alors que bon, bah, à l'écran, t'as l'impression, oui, bah, d'accord, ils ont mis une caméra sur le capot.
Mais pourquoi tu vas pas voir le fort ?
Quel fort ? Il y a des forts dans la région ?
Mais non, le fort ! Le maître de conférence à la fac d'Orléans. Il est connu dans le monde entier.
Ah oui, dans le monde entier, carrément. Oui. Le mec, il est aussi connu que le professeur Tournesol.
Je vais regarder si on n'a pas son numéro dans nos fichiers.
Non mais attendez, j'ai mieux. Ma sœur, elle bosse à la fac. Je vais l'appeler.
Eh ben heureusement qu'il y a le réseau des commères du Loiret pour faire gagner du temps à la gendarmerie.
Le temps passe vite et c'est vrai qu'on a déjà énormément de choses de dites. Et moi, franchement, j'ai qu'une envie, c'est de reparler de ça en votre compagnie parce que c'est vraiment passionnant. Mais en ouverture, je voulais vous poser une dernière question. C'est quel truc le plus technique, le plus improbable vous avez fait de bricolage? Quelle anecdote vous pouvez avoir? Vous pouvez nous ressortir, que soient les tournages, hein, ouais. pour arriver à vos fins.
Moi, en tout cas, j'ai vu sur un tournage, c'était un défilé de mode. Et donc, je filmais avec mes comparses, encore une fois Victor, mais surtout Antoine Lepage. Et j'ai vu un travelling de 25 mètres à peu près, fait en tube PVC. Alors, on peut en voir pas mal, mais là, 25 mètres quand même, ça, 25 mètres, c'était quand même costaud. Et c'est-à-dire qu'en fait, ils ont été à Casto, les gars, l'après-midi. Et ce qui est énorme, c'est que bah, ils sont revenus le lendemain en disant « Bon, bah, en fait, ça nous a pas servi, on vous le rend. » Donc, ça nous a coûté 0 euro l'affaire. C'était, mais... Ah bah, du coup, bilan, sachez que vous pouvez avoir des tubes PVC gratuitement et les ramener à Casto si ça ne vous a pas servi.
On transmettra. Geoffrey, t'en as une pour nous aussi, un petit bricolage sur un tournage.
Et bah, il y a un de mes amis avec qui je tournais, qui lui, dans l'événementiel, qui avait une boîte... événementiel qui faisait en son et lumière et tout ça, et qui avait bricolé une grue de 6 mètres 50 à peu près, de 5 mètres 50, 6 mètres, je ne me rappelle plus exactement.
C'est une folie.
Voilà, il avait réussi à trouver des bribes de plans sur internet, il y avait une tête motorisée au bout pour bouger la caméra et tout, enfin c'était un gros truc de fou, et on s'en était servi pour un détournement d'Indiana Jones, on s'est dit merde, c'est du Spielberg.
C'est la base.
On avait fait deux plans qu'on avait choisis, évidemment. Non, ça c'est un plan, on a un gros décor pour là, machin, pour justement... À la Spielberg, tu suis le personnage et tout, puis hop, t'as la grue qui monte, puis en fait, tu vois qu'il arrive sur un truc pas possible. Enfin voilà, c'était vraiment intégré.
Depuis, la personne est décédée.
Oui, mais ça c'est un détail. Voilà. Elle est bonne. Fais le mort.
Si, on la garde.
On l'embrasse quand même.
Voilà, bon, pensez pour sa famille. Non, et donc, bravo au gars, c'était un vrai MacGyver. Ce copain, enfin c'était énorme.
On va quand même enquêter sur lui.
Ça, je pense que c'est le truc le plus foufou. Non, on serait dans ce cas de figure. On dit bah, c'est pas grave, je sors le drone et puis on le fait ton plan. Ouais. Mais c'est pas pareil.
C'est vrai que les drones, ça pourrait être une émission à part entière.
C'est vrai que pour avoir monté du travelling en rail, en forêt, où tu mets une tripotée de cale pour que ça soit droit, c'est plus le pointeur. Enfin voilà, t'as un mec sur le plateau, la caméra, t'as le pointeur qui est. À faire le point machin, enfin c'est tout.
C'est sûr. Après, ce qui pose problème, c'est le son finalement, tu vois. Oui, c'est, voilà, voilà.
Donc ça a ses limites évidemment, mais pour des petits trucs comme ça, si c'est pas un travelling énorme à monter, si tu veux juste, hein, c'est vrai que ça peut être vachement.
D'ailleurs, le drone, Patrice Blanchard, au départ sur les Dunois, il me dit oui, alors je vois bien pour le générique d'intro, on pourrait suivre un chat dans les rues de Beaugency, tout ça avec un drone. Je lui dis mais attends, mais tu t'as réfléchi ou pas ce que tu m'as dit là? Parce que déjà, un chat, deux, un drone.
Ah non, ça va faire bon ménage.
Je suis fan.
Voilà.
D'ailleurs, on salue Patrice, mais je trouve ça génial.
Ah, je dis, bah pourquoi Mais on a quand même placé le chat. On a quand même placé le chat sans drone.
Cool. Qu'on salue d'ailleurs.
Voilà, le chat, et c'est Hermès le chat pour info. On l'embrasse aussi.
Bah en tout cas, c'était un plaisir de parler de créativité avec vous. C'est pareil, passé une vitesse folle. J'espère que c'est pareil pour nos auditeurs. Parce que sincèrement, on a très envie, c'est déjà de reparler de technique avec vous. Parce que là, on voit vraiment tout ce qui fait le sel du cinéma, de l'amateur avec toute l'affection qu'on a pour ce niveau-là, jusqu'au professionnel. On voit que c'est le même plaisir dans tous les cas à faire du cinéma et à reprendre du plaisir d'enfance. Parce que vraiment, c'était l'idée, hein, c'est avec ces jouets techniques. C'était pas d'être péjoratif. on voit qu'il y a cette volonté tout le temps d'être créatif et on retrouve ces âges très 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 enfantins qui rendent ce métier aussi passionnant. En tout cas, merci beaucoup Valentin d'avoir été avec nous.
Merci, c'était hyper agréable. Puis vous revenez quand vous voulez pour reparler de tout ça.
Ah ouais, merci beaucoup Geoffrey également pour m'avoir aidé à interroger Valentin. C'était très compliqué.
C'était super cool, encore une fois. Puis oui, très, très intéressant de parler avec Valentin.
Bah merci à tous en tout cas. Ouais.
Merci beaucoup. Et puis on rappelle donc la malédiction du Noir qu'on a beaucoup cité en DVD. Donc on rappelle les dates.
Grosso modo, début mars, c'est pas hyper acté sur la date de sortie, mais ça ne devrait pas tarder.
Bon, les gens entendent cette émission fin février. Donc mars, vous surveillez la page de la malédiction du Noir et de VB Presta également, la page Facebook. Également, nous relayera sur Graffiti Cinéma. Et au plaisir en tout cas de prochaines émissions.
Merci, à bientôt.
Salut à tous.
Pourquoi vous avez fait chez Graffiti?
Non, pourquoi vous faites ça?